Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue.
Et moi, Joëlle Fortisouci et je suis physiothérapeute.
On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans.
On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner.
So, let's go!
Salut tout le monde! Salut les filles!
Salut Catherine!
Je dis les filles parce que cette semaine, nous recevons de nouveau sur le podcast Molka, infirmière clinicienne et future consultante en lactation IBCLC. Re-bienvenue sur le podcast!
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment excitée et contente de revenir et de parler de plein de beaux sujets qui me passionnent avec vous.
Oui, parce que la dernière fois, on avait parlé de mastite. C'était à l'épisode 83. On pense qu'il serait intéressant de parler aussi de blessures au mamelon pendant l'allaitement. On voulait démystifier les freins de langue aussi, si on a le temps. On s'éloigne un peu de la santé pelvienne, mais on se dit qu'une maman qui est plus informée des options qui s'offrent à elle sera une maman moins stressée et qui dit moins de stress, dit moins de tension sur le plancher pelvien. Voilà le lien. Donc, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous réexpliquer brièvement ton travail, Molka, ce que tu fais en clinique principalement comme infirmière chez Symbiose?
En fait, je suis infirmière clinicienne en périnatalité et en petite enfance, là, c'est-à-dire que je me spécialise particulièrement avec la clientèle enceinte et les 0-5 ans. Je fais énormément d'allaitement là, en tant que future IBCLC, là, c'est-à-dire que bon, l'examen est complété, mais que je suis en attente des résultats. Je fais des évaluations, des plans de traitement, des suivis en lien avec des problématiques d'allaitement, tout ce qui est développement là, de la sphère orale aussi. Je fais parfois de l'alimentation au biberon ou avec d'autres dispositifs là, un peu plus spécialisés. Puis en fait, là, ce que je fais, c'est vraiment un portrait global là, de la diade maman-bébé ou parent-bébé pour vraiment régler certaines problématiques.
Lié à l'alimentation du bébé, dans le fond?
Ça peut être lié à tout ce qui est les soins. Des fois, là, c'est la santé digestive là, des bébés qui ont des problèmes au niveau de la digestion. Parfois, c'est au niveau tout ce qui est oral. Fait que même si le bébé n'est pas allaité, ben, parfois, on a des difficultés au biberon ou avec les suces ou les choses comme ça. Donc, moi, je vais essayer d'évaluer tout ça puis de trouver des solutions ou alors des dispositifs ou des traitements là, en particulier.
Toi, tu les connais toutes ce qui existe sur le marché.
Tout ce qui est nouveau. On fait juste me le montrer là, puis je peux te dire c'est telle marque, tel modèle, sorti en telle année, puis je préfère ça ou ça à la place. Puis, ben je collabore là, beaucoup avec d'autres professionnels afin là, d'avoir une approche globale pour la famille, puis aussi pour qu'elle évite de répéter aussi son histoire à tout le monde. Là. Donc, quand je les vois souvent, j'envoie des rapports s'ils consultent une physiothérapeute, un médecin, un pharmacien et plein d'autres professionnels avec ça. Puis je fais du prénatal aussi. Je fais plein de choses.
Oui. Wow! Peux-tu nous décrire les différentes blessures du mamelon?
Ah, les différentes blessures. Écoutez, on entend souvent les fameuses principales, mais il y en a vraiment plus qu'on pense. Donc, je vais y aller avec les principales, mais je vais également là, vous en décrire des plus particulières. Donc, on a les fameuses crevasses qu'on entend beaucoup parler. C'est comme un genre de creux sur le bout du mamelon, puis on voit là, la peau qui est à vif. Là. Ça fait comme vraiment un genre de trou, un genre de profondeur dans le mamelon, puis c'est quand même assez douloureux. Il y a également les gerçures. Les gerçures, c'est très différent des crevasses. En fait, c'est des fissures à la jonction entre le mamelon puis l'aréole. Hein, l'aréole, c'est la partie qui est un peu plus foncée là, en genre de cercle autour du sein. Puis le mamelon, c'est vraiment ce qui ressort. Puis la gerçure, c'est vraiment une fissure entre les deux. Quand on a des crevasses puis quand on a des gerçures, c'est synonyme que la prise du sein n'est pas assez profonde. Donc, que bébé ne prend pas assez de tissu dans sa bouche. Il y a les ampoules de lait qu'on entend de plus en plus parler. C'est pas toutes les mamans qui en ont non plus. Là. Les ampoules de lait, dans le fond, c'est comme une accumulation de lait dans un canal lactifère. Puis, ça bouche à la surface du mamelon, comme un genre de flap de peau. Souvent, on voit comme un genre de point blanc ou un genre de point jaune. Puis c'est super douloureux parce que ben, le canal il est bloqué. Hein, notre fameuse autoroute de la dernière fois là, en mastite ben, est bloquée.
C'est comme un bouton du sein.
Oui, genre comme un bouton du sein.
Il y a de la pression.
Il y a de la pression, ça fait super mal. Là, parfois, ça élance dans tout le sein. Fait que ça, c'est comme nos trois principales. Parfois, on a un ensemble de tout ça. Ensemble. Fait que des fois, j'ai des mamans qui arrivent puis que je vois leur sein puis je fais comme, oh, tu sais, on a vraiment un ensemble de tout ça.
J'ai une question.
Oui.
As-tu une gale dans les crevasses ou les gerçures, ou il y en a dans les deux, genre?
Pas nécessairement. Parfois, on retrouve des gales quand les mamans elles gardent leurs seins à sec ou ils disent « Oh, je vais mettre mes seins à l'air pour... » parce qu'on m'a dit qu'il fallait laisser mes seins à l'air. Là, ça vient comme créer de la sécheresse puis des gales. Donc oui, parfois, il y a des gales.
Dans les deux cas, ça pourrait être à vif. Tu sais, genre, on voit vraiment une rougeur dans le creux.
Oui, des fois, là, on voit vraiment une plaie. Là. C'est vraiment une plaie. Okay. Là, c'est ouvert. Okay. Tu sais, des fois, on a des gales, des fois, on n'en a pas. Quand il y a des gales... venez me voir. En fait, venez me voir même quand il n'y a pas de gale. Mais, tu sais, quand c'est sec, là, c'est ça. Tu sais, c'est quand bébé va mettre le sein dans sa bouche puis qu'il va téter, ben c'est un peu dégueu à dire, mais il va comme arracher la gale. Ouais. Fait que ça recreuse la plaie, puis là, ça recommence, puis on a un cercle vicieux. Fait qu'on veut vraiment comme traiter le tout.
Là. Quand tu dis viens te voir, tu fais aussi la télésanté, là, en virtuel.
Oui, je fais également
de partout dans le monde.
Ah, je fais du domicile, je fais du virtuel, je fais de la clinique. je fais tout plein de choses. Là, moi, tant que je vous aide, là, peu importe le contexte, c'est mon but. Donc, c'est ça. Parfois, on a l'ensemble de tout ça. Puis, ben, je tiens également à décrire ces différentes affections qui peuvent expliquer de la douleur sans nécessairement avoir une blessure, une plaie profonde qui est claire. Okay? Parce que des fois, il y a des mamans qui disent « Ah, oh, j'ai mal, mais j'ai pas de blessure. » Fait que ça doit être normal, mais non pas tant que ça. T'sais, dès qu'on a de la douleur au sein ou en allaitant, c'est pas normal. Il faut consulter un professionnel en allaitement, il faut adresser la douleur parce que c'est pas très le fun, là, plusieurs fois par jour, allaiter bébé en hurlant avec les orteils retroussés parce que ça fait mal. C'est pas le but du tout. Donc, là, je m'éloigne, là, je fais comme plein de parenthèses, mais dans le fond, là, les différentes affections qui peuvent expliquer la douleur. On a le fameux muguet qu'on entend souvent parler.
Ça fait mal, ça?
Ça fait très mal. Il y a des mamans qui le sentent pas, puis il y a des mamans qui viennent me voir et qui me disent « Molka, j'ai l'impression que je traîne mes mamelons sur de l'asphalte chaude à longueur de journée. Ça brûle, des coups de couteau dans le sein. » Puis des fois, tu sais, ils disent « Ah, oh, mais bébé, tu sais, il n'y a rien dans la bouche, donc ça doit pas être du muguet. » Des fois, quand on arrive à le prendre assez tôt, bébé, il n'y a pas encore des lésions dans la bouche. Le muguet, là, c'est une infection à candida albicans. C'est un genre de champignon. C'est exactement le même pathogène que la vaginite.
Oui. Donc, qui est inconfortable aussi.
Qui est inconfortable aussi. Puis souvent, les mamans qui font des vaginites à répétition sont souvent plus à risque là, de faire du muguet aussi. Fait que des fois, c'est un bon indice. Mm-hmm. Fait que quand il y a du muguet, il faut le traiter. On ne peut pas faire comme oh, ça va s'en aller tout seul. Ça ne s'en ira pas tout seul. Venez voir moi ou quelqu'un d'autre là, qui a une spécialité en allaitement pour régler tout ça. La fameuse infection bactérienne. Quand on a une plaie, puis que ça fait longtemps qu'elle est là, puis qu'elle est prise en charge sur le tard, ben des fois, ça infecte. Fait que ça aussi, ben ça fait de la douleur, ça fait mal, c'est pas trop le fun. Les dermatites de contact, les irritations, l'eczéma, oui, ça se peut sur un sein.
Aïe.
Ça fait mal. La maman n'a pas nécessairement de blessure, mais on voit là que c'est vraiment rouge, puis elle a vraiment une irritation. Donc là, oui, il faut consulter parce qu'on veut trouver la cause. Puis là, évidemment, là, je suis allée avec les principales, puis je sais que ça a l'air d'être beaucoup, puis super différent, puis super complexe, mais c'est les principales. Hein. Je vous épargne les causes qui sont les plus rares ou plus complexes, là, notamment le zona, l'herpès, le psoriasis, c'est tout ça là, qui se peut sur un sein. Donc, ça a l'air épeurant, mesdames, mais j'arrive avec mes solutions.
Oui, justement, ça serait quoi les options là, pour les mamans qui suspectent une de ces blessures ou plusieurs? Des fois, on peut en avoir plusieurs en même temps.
Oui.
Ouais, comment que...
comment qu'on gère tout
là,
ça?
Là, on veut juste faire une parenthèse que on vous donne des pistes de solutions un petit peu, mais il faut vraiment consulter ce genre de problématique-là. On est là pour un peu que vous arrêtez de chercher sur Google ou sur des groupes de mamans puis qu'il y a du n'importe quoi. Nous, on se base quand même sur la science, sur les dernières études qui ont été faites sur le sujet. Donc, prenez pas tout ce qu'on dit pour du cash, là, comme on dit souvent nous autres dans les épisodes, mais on veut quand même vous sonner des fois une petite cloche de « Ah, peut-être que... »
Oui, effectivement. Ouais,
c'est de l'éducation.
C'est ça.
C'est de l'éducation puis c'est de la prévention. Puis tu sais, tous les cas d'allaitement, ben tous les problèmes d'allaitement, ben c'est du cas par cas. Puis ça dépend vraiment de... tout plein de facteurs que des fois, on pense même pas que ça va avoir une influence sur l'allaitement. Fait que, il faut vraiment consulter quelqu'un qui va comme prendre en charge toute l'historique puis comme toute votre histoire à vous particulièrement. Là. La première des choses, surprise, serait de consulter un professionnel compétent en allaitement, particulièrement là, une consultante certifiée IBCLC. Avant de trouver un traitement, d'appliquer quelque chose en vente libre, il faut trouver la cause parce que c'est bien beau avoir une blessure, mais si on la traite sans trouver la cause, ben, elle va revenir sur un long terme, ce qui n'est pas souhaitable. Si on traite sans trouver la cause, ben on s'entend que ça va revenir. Là, je vous donne un exemple un peu cocasse pour que vous puissiez un peu le comprendre à la maison. Joël.
Oui.
Et Kat. C'est comme si une maman venait vous consulter pour des fuites urinaires qui sont assez importantes. Puis que malgré la rééducation, malgré les exercices qu'elle fait, ben la problématique, elle persiste. Mais elle a omis de vous dire qu'elle a fait du trampoline 3 fois par jour avec ses enfants, puis que c'est pour ça qu'elle a des fuites urinaires. On s'entend que, tu sais, peu importe la rééducation qu'elle fait puis les exercices, si elle continue à sauter sur du trampoline 3 fois par jour, ben tu sais, ça ne règle pas tant la cause. Si on règle la cause, soit le trampoline, ben on va avoir beaucoup plus de facilité à traiter la problématique à long terme. Est-ce que ça fait du sens ou c'est trop...
C'est sûr que c'est pas le genre de personne qu'on donnerait des exercices couchés sur le dos. T'sais,
ben, c'est ça. Si elle nous dit qu'elle saute avec beaucoup d'impact à tous les jours puis que c'est pour ça qu'elle a des fuites urinaires, ben là, oui, on va faire du travail.
On va lui proposer un plan de match pour pouvoir se rendre jusque-là.
Oui, c'est
ça. Si elle faisait juste traiter, on va dire, le problème, ben, elle se mettrait un pad puis elle... Ça arrêterait là.
Ben, c'est ça. Ouais. C'est exactement pas. Ça. Nous, on veut trouver la cause.
Ça soulagerait.
Ouais, c'est ça. C'est comme mettre un pansement sur le bobo. Mais ouais. Peu importe le pansement puis le traitement que je mets, si on ne traite pas la cause, ben, ça va revenir. C'est un peu le même principe.
Donc, merci d'avoir fait un lien.
Avec grand plaisir. Là, je pensais à ça. Je me suis dit, physio, kin, vétérinaire, ça fait du sens. Trampoline aussi, c'est très comme clair. Après avoir trouvé la cause, là, l'IBCLC ou votre consultante en lactation, ben, elle va identifier le traitement ou alors l'outil approprié. Parfois, c'est juste un changement dans la position d'allaitement ou de la prise du sein qui fait toute la différence. Des fois, j'ai des mamans qui m'arrivent avec des grosses plaies, puis je me rends compte en fait que le positionnement du bébé au sein fait que ça crée une traction puis que la prise n'est pas bonne, puis c'est ça qui fait des blessures. Fait que des fois, juste ça, ça fait toute qu'une différence. Si votre IBCLC est également infirmière clinicienne et qu'elle a un droit de prescrire, si elle le juge nécessaire, elle va pouvoir vous prescrire un traitement approprié en lien avec votre condition, en particulier à vous. Je trouve ça important de dire aux gens à l'écoute d'éviter, s'il vous plaît, d'appliquer des produits en vente libre pour mettre sur les seins.
Genre de la lanoline.
La lanoline. La lanoline.
Certaines huiles.
La lanoline, les huiles, les baumes d'allaitement sur les seins blessés ou même avant, on évite le plus possible. En fait, j'explique le pourquoi. C'est que dans des études récentes, on a réussi à identifier que plus on applique de la lanoline, plus les mamans vont faire une dermatite de contact ou un genre d'eczéma sur les seins. La lanoline, si vous y avez déjà touché ou si vous en avez déjà appliqué, c'est super épais, c'est super gras. Quand je viens d'en appliquer sur le mamelon puis que je mets bébé au sein, ben bébé, il va glisser dessus. Il ne sera pas capable de prendre une prise comme il faut. Il va glisser, il va prendre une prise superficielle, ça crée une blessure. Qu'est-ce que maman fait? Elle en remet.
Okay.
Là, ça crée une irritation. Là, ça glisse. Puis là, on est pris comme dans un cercle vicieux.
C'est bon à savoir ça.
Oui,
ben, ouais, parce qu'on dirait que des fois, ça fait partie des must à avoir dans sa valise d'hôpital.
Oui.
Fait que toi, même s'il n'y a pas de blessure, tu ne pas du
jamais
tout,
de lanoline sur les mamelons. Puis moi-même, tu sais, avant de faire ce métier-là, tu sais, j'ai eu mon premier, puis j'appliquais de la lanoline. Puis finalement, je me suis très, très bien rendu compte que ça l'a juste empiré mon cas. Tu sais.
Ouais.
Fait que moi, souvent, les mamans, quand elles me disent « je mets de la lanoline », ma phrase suivante est « tu peux jeter ton tube ».
Oui, c'est ça. Mets la lanoline dans la poubelle.
Mais pour vrai, ce conseil-là, il vaut de l'or. Parce que, tu sais, c'est ça. On veut améliorer la prise du sein.
Oui.
Parce que c'est sûr que ça contribue, tu sais, aux blessures. Fait que, tu sais, de juste cesser ça, ça peut aider.
Ça peut aider. Puis, tu sais...
Ça sera pas la solution.
Ça sera pas la solution, mais, tu sais, juste ça, ça peut être vraiment super aidant. Puis... Tu sais, tout ce qu'on a appliqué sur le sein, c'est du lait maternel. Dans les études, dans les...
Ça, c'est encore bon.
C'est encore bon. Il y a des propriétés pour la guérison des plaies dans le lait maternel. Puis les études, encore une fois, les données probantes démontrent que peu importe ce qu'on applique, ce qui est toujours le plus efficace, c'est le lait maternel et rien d'autre là, sur le marché.
Bam,
le lait maternel. Tiens, c'est vous qui l'avez produit en plus. Là, vous créez votre propre médicament. Là, on s'entend que... C'est « woman empowerment ».
Fuck la lanoline.
Fuck la lanoline, exactement. Dès que vous avez une douleur lors de la mise au sein, là, n'hésitez pas à consulter une professionnelle en allaitement. Ça va vraiment éviter là, l'évolution vers les blessures. Puis, tu sais, comme je disais, la douleur, c'est pas normal. Puis, on veut l'adresser le plus rapidement possible.
Yes. Yeah. Puis, On change un peu de sujet, là, mais j'aimerais peut-être profiter de ta visite pour qu'on explique aussi dans cet épisode c'est quoi les freins de langue. Ou avais-tu d'autres trucs à dire sur le sujet, Molka?
Pas vraiment. Je vais comme faire un petit résumé là, de tout ça. Donc, on veut vraiment là, évaluer la cause, trouver un traitement approprié selon votre cas à vous, puis éviter là, d'appliquer des produits qu'on trouve en vente libre, dont la lanoline.
Et fait que fuck la lanoline.
Fuck la lanoline.
Arrêtez de dire ça, de mettre ça dans la valise d'hôpital, parce que je le vois encore vraiment beaucoup, ouais. Sûrement toi aussi. Ça prend la lanoline ou t'achètes ça au shower, là. On vient de démystifier que non.
C'est du cas par cas, dans le fond. Ouais. Dans le sens que ça peut dépendre de l'anatomie de la maman, ça peut dépendre de l'anatomie du bébé, ça peut dépendre tellement de facteurs que d'avoir un œil externe connaissant, expert, c'est ça qui va aider le plus là, pour les blessures.
Exactement. Puis tu sais, moi, quand j'évalue la cause d'une blessure, ben oui, je regarde l'anatomie de la mère, mais je regarde aussi l'anatomie de la bouche de bébé.
Oui. Mm-hmm.
Puis je regarde la technique de la mère. Ouais. Comment est-ce que les deux fitent ensemble?
C'est vrai, il y a une autre question qu'avant qu'on change de sujet, tu disais, bon, toi, tu es infirmière clinicienne, donc tu as le droit de prescrire certains trucs. Mais sinon, si la maman, elle ne sait pas qui aller voir, est-ce que les pharmaciens peuvent prescrire ça ou c'est vraiment faut passer par un médecin la plupart?
L'important, c'est vraiment que la personne ait des compétences en allaitement puis qu'elle ait vraiment ses données à jour. Souvent, les médecins ou les pharmaciens vont recommander des choses, puis si c'est pas contre eux, mais qui sont plus à jour ou alors qui sont pas adaptés à cette condition-là en particulier parce qu'ils vont pas vraiment essayer de trouver la cause. Fait qu'ils vont prescrire de quoi?
En espérant que cette crème-là, mettons, fonctionne.
Soit miraculeuse.
Si j'ai un exemple de bord plus précis pour le muguet.
Oui.
Ça, il pourrait-tu être...
Oui.
Parce que, tu sais, je me dis, c'est pas tant biomécanique la cause du muguet. Fait que je me dis,
le muguet, il n'y a pas de
problème. Ça pourrait être traité.
Oui, c'est ça.
Puis il y a des pharmacies qui ont des infirmières qui sont capables d'évaluer puis de prescrire justement le...
Oui, si elles ont une formation en allaitement, elles pourraient le prescrire. Si elles n'ont pas la formation appropriée, c'est plus touché au niveau légal. Elles pourraient, mais c'est plus touché au niveau légal. Oui.
Intéressant.
C'est ça. Moi, je ne me verrais pas en train de faire des soins de pied à quelqu'un parce que j'ai pas la... Oui, j'ai le titre infirmière clinicienne, mais j'ai pas la compétence puis je ne suis pas à l'aise de le faire parce que j'ai pas une formation spécifique à ça. Fait que, si elle a son droit de prescrire puis qu'elle est à l'aise puis qu'elle l'a bien détecté, oui, il n'y a pas de problème, elle va le faire. Mais si elle n'est pas à l'aise puis qu'elle ne sait pas trop, ben, souvent, elle ne sera pas à l'aise. Mais pour le muguet, oui, effectivement.
Non, c'est juste que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit... Exactement ça, à travailler en pharmacie.
Puis, okay.
Mais tu sais, c'est du cas par cas, encore une
c'est
fois.
Encore du cas par
comme
cas.
Peut-être que c'est pas son expertise.
C'est ça, ça dépend vraiment de leur expertise, exactement.
Dans un prochain épisode, on va parler un peu de la préparation aussi à l'allaitement. Fait que je pense que ça, de prévoir, OK, moi, à ma pharmacie, j'ai-tu une infirmière clinicienne ou dans ma région, dans mon coin, d'essayer de faire ces recherches-là, ça serait quelque chose à faire avant que bébé...
Ouais,
ça.
Avant, oui.
On va reparler ça, c'est un autre épisode qu'on va réinviter Molka. Mais bon, fait que as-tu des trucs, toi, Joël, à rajouter sur blessure au mamelon?
Ben non, mais justement, je trouvais qu'on faisait bien lien vers le frein de langue.
Oui, hein?
Parce que ça peut contribuer.
Mais pas tout le temps.
Mais
c'est ça qu'on va démystifier. Fait que le frein de langue, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Comment qu'on détecte ça? En fait, un frein de langue. À part que c'est ça, toi, tu observes l'allaitement, puis c'est fait que pendant que bébé allait que tu observes ou tu prends bébé à part puis tu.
Moi, je prends bébé à part et je fais un examen orofacial. Donc, je mets un gant propre et je regarde avec différents tests les structures de sa bouche, la mobilité de sa langue aussi. Puis, tu sais, j'aimerais d'abord là, qu'on discute c'est quoi un frein de langue. Un frein de langue, on en a tous un. Sinon, notre langue, soit qu'on l'avalerait, ou elle tomberait par terre. C'est moyennement souhaitable.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre. En fait, le frein d'angle, là, c'est une fine membrane de tissu qu'on appelle le frénulum. Puis le frénulum, lui, va relier la langue au plancher de la bouche, fait à la structure qui est sous votre langue.
Regardez-vous dans un miroir, soulevez la langue.
Oui, là, tout le monde bouge sa langue dans sa bouche présentement. Fait que oui, c'est ça.
Tout le monde vous regarde en auto, vous êtes en train de conduire, là.
Puis tout le monde lève sa langue à son palais pour voir son frein là, dans son miroir. Là. Gardez les yeux sur la route. Là, quand ce fameux frein-là il est trop épais, trop rigide, trop court ou qui est trop attaché vers l'avant de la langue, ben, ça entraîne une restriction de la mobilité de la langue. On appelle ça l'ankyloglossie. Ça, c'est le terme scientifique, l'ankyloglossie.
Combien de points au Scrabble, ça?
Beaucoup, parce qu'il y a un K puis un Y. ou le frein de langue restrictif. Je vous donne un exemple là, pour le visualiser. C'est comme si deux de vos doigts étaient palmés. Entre nos doigts, là, on a tout comme un genre de flap de peau, une mini palme là, qui relie nos doigts. Le frein d'angle restrictif, c'est comme si cette palme-là était plus haute ou alors plus serrée.
Fait que là, tes doigts, ils rouvriraient moins.
Ils ouvrent moins. Ils ont de la difficulté à bouger séparément. Puis la mobilité est réduite. C'est un peu comme ça que je le décris là, aux gens. Des fois, je le décris aussi. Je dis, c'est comme si votre bras était rattaché à votre tronc puis qu'il y avait une palme. T'sais, c'est difficile de faire un mouvement qui est approprié. Tu veux bien, mais physiquement, c'est impossible. Il y a une composante héréditaire. Fait que des fois, quand je vois des bébés qui ont des freins de langue restrictifs, je dis aux parents, faites-moi donc un beau sourire, levez donc votre langue. Voir. Souvent, il y en a un des deux ou même des fois les deux là, qui ont un frein de langue restrictif. J'ai juste à le regarder puis je suis comme, oh wow, oui, c'est clair, c'est ça. Puis les petits garçons sont beaucoup plus touchés qu'on a remarqué dans les différentes études. On ne sait pas encore pourquoi.
Intéressant.
Comment détecter s'il est restrictif? Bébé va avoir des limitations au niveau de la mobilité de sa langue hein, parce qu'elle est rattachée. Il va avoir de la difficulté à la lever vers le palais, ben parce qu'elle est comme prise, de la difficulté à la sortir également. Puis le bout de sa langue, là, il va souvent faire une forme de cœur. Quand on a un frein de langue qui est clair, qui est quand même gradé, là, assez restrictif, bébé, il essaie de lever sa langue, mais le frein est au milieu. Ça fait un genre de cœur quand il essaie de lever sa langue. Vous allez probablement voir aussi la membrane sous la langue quand bébé pleure, il ou elle. Puis souvent, ça vient avec des problématiques d'allaitement ou de prise du biberon ou de prise de suce, etc., etc. Pour détecter s'il est restrictif, vous devez aller voir un professionnel qui a une formation pour évaluer la sphère orale et les freins oraux restrictifs.
Fait que c'est pas de base dans une formation.
C'est pas de base dans une formation. Puis c'est pas de base dans une formation d'IBCLC non plus.
Okay.
Faut vraiment avoir une formation spécifique là-dessus qu'on est allé chercher nous-mêmes. Okay. C'est pas tous les médecins qui ont une formation. C'est pas tous les dentistes qui ont une formation non plus là-dessus. Moi, personnellement, je l'ai parce que je trouve ça intéressant puis je trouve que ça a un grand, grand impact sur la sphère orale de bébé puis sur l'allaitement. Et donc, chez Symbiose, là, mes collègues puis moi, on a toute la formation pour le faire, là, cette évaluation-là. Puis on va souvent utiliser des échelles d'évaluation qui ont été conçues par des spécialistes là, à l'international. Puis on va venir comme grader ou coter le frein selon différentes choses qu'on va observer. Puis ça, bien, vous y avez accès par la suite à cette échelle-là.
Tu parlais de ça, ce que je t'interromps un peu, mais il y a beaucoup de mamans qui me disent des fois, j'aimerais ça que mon bébé prenne la suce, puis il veut pas, il recrache tout le temps, j'ai essayé plein de sortes, ça marche pas, il en veut pas de suce. Mais dans le fond, peut-être que ça peut être ça, là, comme tu dis.
Peut-être que ça peut être ça.
Fait que ça n'a pas juste un lien nécessairement pour les bébés qui allaitent. Fait que,
pas du tout. Ça peut avoir un lien avec la suce, ça peut avoir un lien avec le biberon, ça peut avoir un lien avec
la façon qu'il va manger plus tard, l'intégration des aliments.
La façon qu'il va manger. Il y a des bébés, des fois, qui gaguent tout le temps. Ils ont un gros réflexe nauséeux dès qu'on met quelque chose dans leur bouche. Souvent, il y a un frein de langue quand je regarde ces bébés-là parce que, pour faire une histoire courte, là, le réflexe nauséeux, c'est un réflexe qu'on va trouver au palais. Plus le bébé met sa langue au palais in utero, plus le réflexe va reculer. Fait que c'est pour ça, nous, mettons qu'on met notre doigt très, très profond dans notre bouche, on va avoir un réflexe nauséeux. Parce que notre langue, ben, elle a comme travaillé notre palais à le désensibiliser, ce réflexe-là. Quand il n'est pas capable de monter sa langue au palais parce qu'il y a tout simplement une structure qui l'empêche, le réflexe nauséeux, il reste à l'avant du palais. C'est pas de sa faute pour petit, il est juste pas capable de monter. Fait que souvent, ces bébés-là, ils vont avoir ou ses enfants ont un réflexe nauséux.
On peut penser qu'ils ne tolèrent pas les textures, mais dans le fond...
Ouais, des fois, il y en a
c'est la texture qui est comme dans une place de la bouche.
C'est ça, c'est pas de sa faute. Puis j'ai des gens, des fois, qui viennent me voir avec leur enfant de 2-3 ans. Ah, il est vraiment difficile, il ne veut rien manger, tout le dégoûte, là, je ne sais plus quoi lui donner. Puis je me rends compte, finalement...
Ça peut être ça aussi.
Souvent, c'est ça, tu sais. C'est pas qu'il est difficile, c'est pas qu'il ne veut pas manger, c'est pas qu'il aime rien, c'est qu'il n'a pas la capacité de le gérer en ce moment avec ses structures.
J'imagine que ça peut passer inaperçu pour quelqu'un qui, justement, là, il donnerait un biberon avec un débit assez facile. Ouais. Ben, il n'y a pas, tu sais, nécessairement d'impact sur l'alimentation à ce moment-là. Fait que...
Exactement. Des fois, on a des belles surprises.
Oui.
On a des belles surprises.
Ouais. Mais là, on est rendu loin quand c'est ça, les enfants de 2-3 ans qui...
Ah, mais j'en fais aussi, là. J'ai des parents.
Ça, ouais, ça, non, je suis renversée.
Mais je, c'est ça, moi non plus, je savais vraiment pas ça. Ouais. Je me dis, il doit y avoir un lien pour ça, la DME.
Oui, mais même la purée. DME. Juste la cuillère dans la bouche quand c'est des purées, des fois, c'est trop difficile pour eux de les gérer. Là. Mm. Ils comprennent comme pas trop quoi faire non plus avec leur langue. Là. La coordination est difficile parce qu'elle est rattachée. Fait qu'ils savent pas trop quoi faire avec. Ouais. Je disais, c'est ça que, tu sais, il y a certains professionnels qui vont parler de freins de langue restrictifs aux parents à la naissance sans nécessairement avoir la formation pour l'évaluer. Fait qu'ils font juste dire à votre enfant un frein de langue, bonne journée.
Mais
dans ce cas-là, tu sais, on vous laisse un peu dans l'inconnu. Fait qu'on vous invite vraiment à consulter quelqu'un qui a les compétences cliniques.
Oui, c'est que c'est quelqu'un qui sait probablement pas quoi faire avec ça.
C'est ça.
De plus que de dire qu'il y en a
c'est
un.
C'est un fait, il y a un frein de langue.
Ben, tout le monde
en a tous un. Là, ouais. Ce qu'il veut dire, c'est...
Il est apparent.
Il est apparent, il est restrictif, il est court. C'est un fait, mais c'est ça. Je ne sais pas trop quoi faire avec.
Dans le fond, tu nous as un peu résumé, mais qui aller voir quand on suspecte ça?
On commence
avec qui?
Ben, en fait, quand on soupçonne un frein de langue restrictif
on a appris quelque chose.
Qui nuit à l'allaitement. Qui dit frein de langue restrictif et problématique d'allaitement ensemble, le choix qui s'offre à vous, surprise, c'est l'IBCLC. L'IBCLC, c'est la seule professionnelle qui a une formation spécifique en lien avec l'allaitement et l'ankyloglossie ensemble. OK? Avant de faire ce fameux examen de l'ordre des consultantes en lactation, elle doit avoir reçu une éducation spécifique à l'ankyloglossie, donc une éducation de base sur les freins de langue restrictifs et l'allaitement ensemble. Puis, avec ça, elle va pouvoir vous conseiller des exercices dans la bouche de bébé. Elle va pouvoir évaluer plus en profondeur l'ampleur de la problématique, si elle a la formation, évidemment. Vous donner des trucs comme des positions différentes, une prise de sein différente avec une technique spécifique. Fait que c'est vraiment comme une IBCLC qui a une formation là, là-dessus. Il y a certaines physiothérapeutes qui sont IBCLC puis qui ont la formation là aussi pour regarder ça. Là, c'est pas nécessairement une infirmière qu'il faut aller voir. Là, tant que c'est une consultante en lactation, moi, ça me va.
Oui. C'est quoi les options de traitement? À part les massages, exercices?
Ben, moi, il y a deux voies que j'aime bien explorer avec les parents. Puis, je suis souvent les souhaits des parents. Mon option 1, ça serait vraiment de tenter d'effectuer des exercices dans la bouche de bébé selon sa condition à lui ou elle pour améliorer sa mobilité orale. Après environ 2 semaines d'exercice, là, moi, je refais un examen. T'sais, je les invite à revenir me voir, puis je refais un examen de la sphère orale, puis j'évalue s'il y a des gains. Ça a-tu fonctionné, les exercices?
Des exercices quotidiens?
Des exercices quotidiens dans la bouche de bébé pour l'aider un peu à comprendre ben, qu'il faut utiliser sa langue, hein, puis des fois, à venir un peu étirer les structures.
Mais ça s'assouplit. Je dis pas que ça s'assouplit chez tout le monde, là, mais ça peut s'assouplir.
Les exercices peuvent présenter un gain ou une amélioration assez importante pour juste rester sur cette voie-là.
Arrêtez-le. Oui, c'est ça.
Oui.
OK.
Par contre, selon le grade du frein, des fois, je recommande tout simplement l'intervention chirurgicale avant même de faire des exercices parce que je juge que peu importe les exercices qu'on va faire, c'est trop attaché vers l'avant, c'est trop restrictif. Donc, on y va plus vers une approche qui est chirurgicale.
Selon ton évaluation puis ta gradation.
Selon mon évaluation puis ma gradation. Puis quand je les vois, ben, tu sais, j'explique les différentes façons de faire. Puis souvent, tu sais, moi, je fais une référence à un professionnel qui est adéquat là, pour faire la chirurgie. Donc, le professionnel va voir toute mon évaluation, il va voir toute mon échelle et ma cote là, et tout ça là, pour qu'on puisse travailler ensemble.
Quand tu dis adéquat...
Quand je dis adéquat, c'est qu'il y a différents... Ben, en fait, là, je vais vous expliquer les types de chirurgie, puis vous allez un peu comprendre le principe là, et d'où je sors mon adéquat, ou pas adéquat, mais de préférence, disons, de préférence. Il y a deux types de chirurgie. Une chirurgie, c'est mineur, là, une chirurgie de frein de langue. Ça dure littéralement 30 secondes.
OK.
Il y a des mamans qui ont un rendez-vous à 8h. À 8h05, elles sont sorties.
Ouais.
C'est 30 secondes. C'est vraiment pas long. Première option, la frénotomie. Frénotomie, ça veut dire que le professionnel va couper le frein avec un ciseau stérile. Donc, si je vous montre encore mes doigts qui sont palmés ici, par exemple, il va tout simplement prendre un ciseau, clic, on coupe.
Il sépare.
Il sépare, merci, bonne journée. Ça, c'est la frénotomie. La deuxième, c'est la frénectomie. On a quelques lettres de plus, mais c'est-à-dire là, que le professionnel, lui, il va faire l'ablation du frein avec un laser. Fait que Encore une fois, mes doigts sont palmés. Il va prendre le laser puis il va faire l'ablation. Fait qu'il va aller vraiment là, tout sur le côté ici. Il va tout comme cautériser. Il n'y aura plus de frein du tout, du tout. Mm-hmm. Personnellement, en fait, même professionnellement, j'ai une préférence. C'est la phrénectomie, c'est-à-dire l'utilisation du laser. Je vois une grande différence en termes de mobilité de la bouche versus une intervention qui a été faite au ciseau. Pourquoi? Si j'utilise le ciseau puis que je coupe, ben, j'ai encore du tissu autour. Fait que, tu sais, oui, j'ai une mobilité que j'ai gagnée, mais il me reste encore du tissu autour. Quand je vais avec le laser, ben, je l'enlève au complet. Fait que souvent, on a plus de gains. Donc, tu sais, si je vous propose de juste comme donner un coup de ciseau ou alors de l'enlever au complet, mais tant qu'à jouer dans la bouche de bébé, je préfère l'enlever au complet. Puis je vois, tu sais, plus d'amélioration au niveau de la mobilité. Tu sais, les professionnels qui effectuent les phrénectomies ou les phrénotomies, c'est soit les dentistes, les ORL, certains médecins. J'aime beaucoup travailler avec les dentistes, mais c'est vraiment une préférence là, professionnelle, tout simplement.
Puis, en tant que maman, tu sais, mettons, là, j'appelle chez mon dentiste.
Oui.
Puis je lui demande, faites-vous ça?
Oui.
Puis ils me disent oui. C'est-tu un excellent choix où je devrais me référer à une consultante ou comme quelqu'un qui va me diriger vers le bon dentiste. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
S'ils ont un laser, ça se peut qu'ils me disent, oui, j'en fais, mais ils en font
beaucoup.
C'est comme un par année.
C'est ça. Ben dans ce cas-là, référez-vous vers votre consultante en lactation. Puis ça dépend des régions aussi. Il y a des régions qu'on n'a pas beaucoup de choix. Puis il y en a d'autres qu'on a beaucoup de choix. Il y a des gens qui vont faire de la route même pour avoir un professionnel qui est adéquat. Ça dépend aussi de vos moyens financiers. Il y a des dentistes ou des professionnels qui sont couverts par la RAMQ. Il y en a d'autres que c'est privé, qu'il va falloir débourser. Ça dépend vraiment de votre choix à vous. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, il faut une phrénectomie », puis finalement, je l'évalue, puis comme je pense qu'on est mieux d'y aller vers des exercices, puis on verra. Puis tu sais, si vous voulez pas faire une phrénectomie ou couper le frein de langue, ben c'est bien correct. T'sais, moi, je respecte le choix toujours des parents, puis on va juste y aller vers une autre voie qui est les exercices, puis qu'on va juste comme les adapter avec le temps, là, c'est tout.
Mm-hmm. Puis quand on a la chirurgie, une des deux méthodes, est-ce que ça vient d'emblée avec des exercices après à faire à bébé?
Ah, j'adore ta question, Catherine.
Parce qu'on a beau faire la chirurgie, mais il y a de l'apprentissage. Si on n'a plus ce bout-là de membrane.
Catherine, des fois, je me dis, il faudrait que tu deviennes consultante en lactation. Tu sais, l'intervention...
Tu manques de temps dans ma vie.
Mais un jour peut-être. Tu sais, on voit souvent des impacts positifs. Qui dit chirurgie, dit réadaptation. Si je coupe ma palme là, de mes doigts, mais qu'on ne me réapprend pas comment les utiliser, je vais tout le temps les utiliser ensemble et je ne changerai pas ma façon de faire. Mm-hmm. Fait qu'il faut réapprendre à les bouger séparément, hein, puis à les écarter un peu. Fait que oui, il y a des exercices à faire. Ça, c'est votre IBCLC, puis votre c'est en collaboration avec le praticien qui a fait l'intervention, qui va pouvoir vous donner la marche à suivre puis le suivi approprié. Fait que oui, il y a des exercices à faire. Je ne m'étendrai pas sur les exercices parce qu'on va sortir d'ici très tard demain.
Les parents ne sortent pas avec une feuille avec des exercices nécessairement. Il faut comme quand même qu'ils...
Faut le demander. Là, la plupart des praticiens qui font des phrénotomies, ils l'expliquent quand même. Là, puis oui, il y a des exercices à faire.
Ça me rassure.
Si on fait des phrénectomies ou des phrénotomies puis qu'on ne vous a pas donné d'exercices, venez me voir.
Ouais.
Parce que ça marche.
Ça n'en prend.
C'est quoi les risques? Sont-ils élevés les risques d'une phrénectomie?
Pas vraiment. Au niveau des risques, ben, tu sais, tout ce qui est chirurgical, on a l'infection, puis on a le saignement. Ça arrive excessivement rarement. Moi, dans ma pratique, j'en ai jamais vu.
Oui, c'est ça. Okay.
Le risque, c'est aussi le plus grand risque, en fait, c'est que la plaie se réattache. Fait que, tu sais, si on coupe puis qu'on fait pas d'exercice de mobilité, ça va cicatriser ensemble, puis on n'est pas plus avancé parce que du tissu cicatriciel, c'est encore plus raide. Hein? Mm-hmm. Fait qu'on veut vraiment faire des exercices de mobilité pour éviter là, que la plaie se colle ensemble ou se réattache. Puis, tu sais, si elle se réattache, si votre IBCLC est également là, infirmière clinicienne, mais on a un rôle en soins de plaie, fait qu'on peut venir le décoller ou comme réarranger la plaie là, selon ce qui se présente devant nous. Là.
Good. Puis, si bébé bon un frein de langue restrictif qui serait visible, mais ça nuit pas à l'allaitement, il ne semble pas avoir de problématique aussi avec le gag, là, mettons, l'apprentissage des aliments, est-ce que plus tard, cet enfant-là pourrait rencontrer des défis au niveau du langage? Est-ce que y a-t-il des parents qui ont regretté de ne pas avoir fait, mettons, la chirurgie? T'as-tu vu ça?
Oui, j'en ai vu. Par contre, tu sais, la chirurgie, elle peut être effectuée tout au long de la vie. Là. Okay. Fait que, tu sais, il y a des gens, des fois, que à l'adolescence, quand ils ont des broches, quoi que ce soit, le dentiste fait comme, ouais, tu sais, je propose une frénotomie, okay. une frénectomie, parce qu'il voit que ça a un impact.
Ça pourrait aider la mâchoire, là.
C'est ça, exactement. Tu sais, quand on pense à la langue, on pense souvent au langage, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre avec notre bouche?
Mange.
On mange, on boit.
On chante.
On chante, on respire, parfois. Donc, il faut penser à tout ça. On pense souvent là, que les freins oraux restrictifs, c'est des problématiques d'allaitement. On pense ça parce que souvent, c'est détecté grâce à l'allaitement. Donc, on l'associe à une problématique d'allaitement. Par contre, c'est une problématique de mobilité orale. Je donne encore une fois un exemple. C'est la journée des exemples aujourd'hui.
Let's go!
C'est ça, si vous allaitez un bébé puis qu'il y a un torticolis, OK, qui rend la mobilité de son cou difficile puis que les mises au sein sont difficiles. Est-ce que si j'arrête d'allaiter, ça va régler le problème?
Pas tout!
Voilà, exactement, même principe. Voilà, donc on pense frein de langue, problème d'allaitement. Non, il faut le dissocier d'ici ma retraite dans une quarantaine d'années, j'espère, et c'est un de mes défis que la problématique va être dissociée. C'est le même principe pour les freins de langue. C'est un sujet assez populaire dans les études présentes en ce moment, les études qui sont en cours. Un frein de langue restrictif qui est non adressé peut amener plusieurs problématiques. Problématiques du langage, hein, on en a parlé, des difficultés d'élocution, le R qui est difficile à dire. La fatigue oro-musculaire, parce que tous les muscles autour, ils vont compenser pour la langue qui a de la difficulté à faire son travail. La dentition, le palais, parce que la langue n'est pas capable de s'accoter au palais. Fait que des fois, on a des palais qui sont étroits, des palais qui sont en forme de bulle, qu'on appelle. Puis là, tu sais, moi, je dis tous ces problèmes-là, mais là, partez pas en peur. Là, ça fait peur, là, mais c'est des études qui sont en cours ou des études très, très récentes. Puis, tu sais, si vous avez un doute, consultez quelqu'un qui est adéquat. Mais moi, mon but, c'est pas que vous soyez en panique là, en ce moment. Le transfert de lait, des fois, entre le sein et la bouche de bébé va être difficile parce qu'il n'est pas capable de sortir sa langue assez. Il n'est pas capable de faire un mouvement approprié. Fait qu'on peut avoir des pertes de poids ou une prise de poids qui est un peu lente à cause du transfert de lait qui est difficile. J'ai parlé d'aversion alimentaire avec les textures, d'hypersensibilité orale aussi.
Puis ça, c'est des choses à surveiller dans le sens où si ça nuit à l'allaitement, c'est sûr, là, on s'en va vers intervention, peu importe selon l'opinion d'une professionnelle. Mais c'est quelque chose qu'on peut surveiller tout au cours de la vie si, mettons, ça n'a pas affecté l'allaitement.
Ouais.
Et comme tu dis, plus tard, ça peut affecter l'alimentation, ça peut affecter le langage, etc.
Quelqu'un qui aurait tout le temps mal à la mâchoire aussi, il y a des liens à faire avec ça.
Oui, des fois, on a des petites surprises. Puis l'hygiène dentaire aussi.
Okay.
Tu sais, quand on mange un caramel puis qu'il est pris dans notre molaire, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bout de notre langue puis on va le dépogner, mais si ta langue est rattachée vers l'avant, ça peut être la misère. Fait que l'hygiène dentaire, des fois, on voit un impact aussi. Mais là, je vais arrêter ma liste là parce que
oui, on pourrait vraiment parler longtemps.
Exactement.
On a-tu le temps pour une dernière question?
Ben absolument.
Qu'en est-il du frein de lèvres? Moi, mon garçon, il a ça. Puis je me demandais, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'allaitement? Moi, j'ai été chanceuse, il n'y en a pas eu, malgré que, tu sais, on a parlé de blessures un peu au début, j'en ai eu.
Oui.
Fait que je me dis peut-être que c'est un lien, mais en tout cas, finalement, on n'a pas eu de chirurgie ou rien. Le dentiste dit, on va attendre encore qu'ils grandissent. Mais chez les bébés, le frein de lèvres, est-ce qu'il y a des chirurgies?
En fait, dans la vie, nous avons toutes 7 freins dans notre bouche.
Mm-hmm.
On n'a pas juste le frein de langue. Okay? On a un frein de langue qu'on n'arrête pas de parler depuis tantôt. On a un frein de lèvre supérieur qui va relier notre lèvre à notre gencive. Frein de lèvre inférieur et 4 freins de joue. 1, 2, 3, 4. Donc, 2 en haut, 2 en bas qui vont relier notre joue à notre gencive. Là, je vois que
les filles
sont loin. Ils sont en train de
les deux
chercher.
Autres, je les ai vus, mais les autres, sont pas en haut.
C'est ça. Des fois, on les voit pas, mais il y en a qui sont vraiment comme réattachés puis qui ont vraiment comme des tensions dans les joues. Fait que moi, tu sais, dans mon rôle, là, je vais vraiment mettre mon doigt partout puis je vais évaluer, lui est plus serré, lui est correct et tout ça. Donc, ces 7 freins-là peuvent avoir un impact là, au niveau de l'allaitement. Mais aussi, tu sais, sur toute la mobilité orale. Le frein de langue, c'est lui qu'on détecte le plus souvent, mais le frein de lèvre supérieur aussi. La façon de regarder s'il y en a un, là, souvent, c'est qu'on va flipper la lèvre, vers le haut, comme pour boucher les narines là, avec nos doigts, on flippe. Puis des fois, on voit vraiment la tension. Puis des fois, on voit que ça va jusqu'à en arrière de la gencive. Puis ça fait une petite indentation dans la gencive. Mm-hmm. Puis ben, c'est vraiment votre consultante en lactation là, qui va pouvoir faire l'examen orofacial puis évaluer comme tous les freins puis l'impact. Si j'ai des parents qui viennent me voir avec un enfant qui a un frein de langue restrictif, puis que je vois qu'il y a un frein de lèvres supérieur restrictif aussi, puis que je recommande la frénectomie, on va venir couper le frein de lèvres supérieur aussi en même temps, là, on voit vraiment une grosse amélioration selon l'analyse du professionnel, évidemment.
Il se passe plein de choses dans nos bouches.
J'ai une petite anecdote. Ma fille aussi avait un frein de lèvres supérieur, puis je m'en doutais parce que la prise au sein, sa lèvre n'était jamais frisée, mais ça ne l'a jamais affectée. Je veux dire, j'ai eu des petites lésions au début, mais après ça a guéri super vite. Là. Puis j'allaitais super longtemps. Mais quand j'ai commencé à y brosser les dents, je brosse, puis là, je fais comme coudonc.
Le bout de chassé.
Je suis comme, j'ai brossé à moitié. Ah. Dans le fond, j'essayais de brosser les dents, mais elle était tellement collée, tu sais, que je brossais à moitié de ses dents.
Ah, bon, fait qu'à faire attention.
Puis à force de du placer pour brosser ses dents, ben ça finit par étirer puis être assez souple.
Exactement. Puis ça, c'est un exercice que je propose souvent. On va flipper, là, je vais vous le montrer, c'est pas chic, là, okay? On va flipper la lèvre comme pour boucher les deux narines. Fait que je vais le montrer à la caméra en même temps. Comme ça.
Ouais.
C'est une belle grimace.
Ça, c'est un exercice. Ça va venir étirer là, la structure. Quand c'est restrictif, on n'est pas capable de le monter pour boucher la lèvre ou alors on voit que ça blanchit. Fait que oui, puis des fois, on le trouve en brossant les dents ou l'enfant fait une chute puis il se le brise parce qu'il est tellement tendu qu'il tombe, puis là, plap, ça fend. Fait que oui, désolé pour les maux de cœur.
Super. Mais, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Joël, si tu avais d'autres points, Molka.
Alors, je pourrais parler de ça pendant toute la journée. Là, mais,
Good. Donc, on va compléter l'épisode comme suit. Allez consulter une consultante.
Dans le doute, consulte.
IBCLC, certifié ou futur.
Futur,
qui a plusieurs heures de formation.
Oh, mon ami.
Puis aussi, Molka, on va la revoir dans un prochain épisode. Je ne vous dirai pas encore le numéro parce qu'on ne s'est pas sorti, mais on veut continuer d'un peu démystifier là, l'allaitement. Puis je pense que c'est pas mal une professionnelle de la santé qui peut nous aider là-dedans.
Merci, merci. La tête m'enfle à chaque fois que je viens là, faire des podcasts avec vous. J'adore ça. Puis, tu sais, j'en profite. Puis, tu sais, c'est vraiment la prévention qui va vraiment le plus aider des mamans, là, puis l'éducation par rapport à l'allaitement puis à tous ces petites problématiques.
Yes. Fait que nous, on tripe prévention aussi. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça jaser avec toi. Fait qu'on se dit, tout le monde, à la semaine prochaine pour un autre sujet, plus santé pelvienne. Donc, suivez-nous. Bye bye.
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 Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. Tu peux aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine!